Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et merci d'être fidèles au programme du studio Kalangou, diffusé via 47 radios et 6 télévisions partenaires. Le forum d'aujourd'hui, réalisé depuis Gaïa, porte sur les défis liés au secteur de l'artisanat à Gaïa. Au Niger, l'artisanat est présent sur tout le territoire, dans tous les groupes ethniques, toutes les zones géographiques, toutes les couches sociales. Chaque famille comporte un ou plusieurs artisans et la gamme des produits est vaste. En dépit de la diversité des productions et malgré la vigueur de la créativité des artisans de Gaïa, ils rencontrent de nombreuses difficultés de divers ordres. Au cours de ce forum, il sera question d'abord de répertorier les types de métiers des artisans de Gaïa, ensuite exposer les défis du secteur de l'artisanat à Gaïa et proposer des pistes de solutions pour l'émergence du secteur de l'artisanat à Gaïa. Et pour en parler, nous avons dans ce studio, M. Abdelkader Mebridi, il est le président communal sortant de l'Association des artisans de Gaïa. M. Kader, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons également dans ce studio M. Idrissa Seydou, il est le secrétaire général départemental des artisans de Gaïa. M. Idrissa, bonsoir.
Bonsoir.
Également dans ce studio, M. Moustapha Amadou, il est le directeur du Centre de formation des artisans de Gaïa. M. Moustapha, bonsoir.
Oui, bonsoir.
À la présentation de ce forum, je suis Fadel Alou de la radio Faraha Gaïa. À nouveau, bonsoir et merci de suivre ce forum du studio Kalangou réalisé depuis Gaïa. Pour commencer, M. Moustapha Amadou, directeur du Centre de formation des artisans de Gaïa, qui est artisan?
Pour aller de façon simple et claire, artisan, je pense qu'il faut le dire, tout le monde est artisan. Artisan, c'est également le savoir-faire. Artisan, c'est vraiment le fait de suivre un processus d'apprentissage à travers vraiment une filière précise. Et ça fait partie aussi de définition de l'artisan. Et artisan, je pourrais aussi dire que c'est aussi l'ambassadeur ou un représentant d'une filière ou un domaine. Artisan aussi, je pourrais dire, c'est aussi un concepteur. En tout cas, si nous prenons de manière générale artisan, je pourrais dire que tout le monde est artisan.
Abdelkader Mebridi, vous êtes le président communal sortant des artisans de Gaïa. Veuillez nous dire les différents métiers de l'artisanat qu'on retrouve ici à Gaïa.
Dans le domaine de l'artisanat ici à Gaïa, oui, on a presque tous les corps de métier. On les retrouve ici à Gaïa.
Pouvez-vous nous les citer?
Bon, par exemple, pour commencer, il faut commencer d'abord par les peintres. Il y a, dans la peinture même, il y a les peintres calligraphes, il y a les peintures bâtiments. Donc, dans le domaine bâtiment, il y a les maçons, il y a les menuisiers, ouais, il y a les carrelés, il y a les plomberies. Ça, c'est dans le domaine bâtiment, il y a les électriciens. Maintenant, il y a les couturiers, les brodeurs, il y a les stylistes. Il y a beaucoup de métiers qui s'est fait ici à Gaïa que bon, on peut trouver parce que d'autres ne sont même pas exposés quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont des métiers que c'est exercé dans les maisons quoi. Et c'est des artisans aussi. Les nattes, les perlés, les décorations de calebasse et autres là. C'est des petits métiers que les femmes font dans la maison, mais ce n'est pas sorti publiquement comme ça. Eux aussi, ce sont des artisans.
Idrissa Seydou, secrétaire général départemental des artisans de Gaïa, quelles sont les principales activités artisanales exercées à Gaïa que vous pouvez nous citer?
Bonsoir, M. Fadel. D'abord, si je peux faire un tout petit pullback par rapport à la définition d'un artisan. Et en tout cas, un artisan, comme l'a dit M. le directeur Moustapha, un artisan, c'est un innovateur. Un innovateur, quelqu'un qui est un fabricant en quelque sorte. Si nous prenons ici dans notre localité, en général dans le Niger, avec la nouvelle nomenclature, on a à peu près plus de 100 corps de métier qui exercent ici au Niger. Mais auparavant, ce que nous entendons dire par artisan, Et par exemple, le cordonnier, le bijoutier, le poutier, et le forgeron. Et le terme artisan se limite à ces niveaux. Mais avec cette nomenclature, nous avons compris qu'aujourd'hui, tout celui qui fabrique ou bien tout celui qui répare représente un artisan. Du coup, aussi ici à Gaya, tous ces corps de métiers sont représentés, comme l'a dit le président sortant, M. Abdelkader, les artisans de Gaya. Nous avons à peu près 20 corps de métiers qui sont représentés ici à Gaya. Vous voyez, parmi ces 20 corps de métiers qui sont représentés, et ils sont tous actifs. Il n'y a pas un qui est caché ou bien qui n'est pas opérationnel.
Vous avez dit qu'il y a 20 corps. Pouvez-vous nous citer
Évidemment. Ces 20 corps, nous avons d'abord, il l'a dit, dans le domaine du bâtiment. Oui. Il y a la peinture bâtiment, la calligraphie. Il y a aussi la menuiserie. Et de la menuiserie, il y a la charpenterie aussi. Et il y a aussi l'électricité bâtiment. Et dans la menuiserie, il y a aussi j'ai appelé les menuisiers charpentiers. Donc ça veut dire les coffreurs. Et il y a aussi les carreleurs. Ça, c'est dans le domaine bâtiment. Maintenant, si nous revenons de ce côté, dans le domaine mécanique, il y a la mécanique automobile, il y a la mécanique de roues, il y a aussi l'électricité automoto. Et nous avons aussi la mécanique poids lourd qui diffère de la mécanique auto, c'est-à-dire poids léger. Donc, quelqu'un qui fait auto ne peut pas, qui fait auto lourd, ne peut pas s'auto-proclamer auto-léger. Donc, c'est deux métiers un peu différents. Et il y a aussi les tisseurs des chaises qui se rangent dans, c'est-à-dire l'artisanat ancien, comme ceux qui font les nattes et consorts. Donc, on les classe dans ils sont dans cette classe. Donc, il y a aussi les bijoutiers que nous avons. Il y a aussi les femmes étuveuse de riz. Il y a plusieurs groupements qui sont là et dont chacun a sa spécialité à part. Par exemple, les femmes qui font la poterie, il y a ceux qui font aussi comment est-ce qu'on appelle ceux qui font la cosmétique surtout, c'est le métier des femmes. Et puis les décorations, c'est-à-dire perles et consorts. Donc, comment décorer une maison. Donc, il y a aussi cette filière qui opère ici, vraiment à Gaya. Donc, c'est à peu près les filières que nous avons avec nous.
Et à votre avis, comment se porte l'artisanat à Gaya?
En tout cas, l'artisanat, je peux dire en grosso modo que l'artisanat se porte à merveille. Et parce que, vous voyez, si vous faites un peu le tour, dans Gaya, à peu près toutes les activités que vous allez voir, c'est l'artisanat. Et le seul problème que nous avons dans l'artisanat ici, c'est seulement le service des impôts qui bloque un peu. Parce que c'est ça, parce que j'ai dit que c'est un blocus vraiment très important parce que y a un artisan qui doit s'exposer, qui doit venir dehors travailler, vraiment montrer son talent. Mais très malheureusement, à cause de cette peur-là, Il est un peu caché dans un coin, dans une maison, il n'est pas dehors.
Abdelkader, hein, quelles sont les autres difficultés que rencontrent les artisans ici à Gaya?
Quand on parle de l'artisan, on parle aussi des Nigériens qui sont sur le terrain. Et à chaque fois, nos propres parents qui sont sur le terrain, qui sont censés à nous donner les marchés, au lieu de nous donner ces marchés, ils vont aller prendre des gens ailleurs. Vous comprenez? Par exemple, moi, je suis un peintre, mais ça me fait mal aujourd'hui que moi, je vis à Gaya, qu'à cause d'une simple peinture bâtiment, on va prendre quelqu'un de Bénin ou bien de Niamey pour amener à Gaya ou bien du Nigeria. Or que cette personne-là, c'est le même travail qu'il va venir faire. À la fin de l'année, l'impôt attaque. Nous, si on travaille ici au moins, on va verser pour l'impôt du Niger. Mais celui qu'on a amené du Nigeria ou bien du Bénin, lui, il va travailler, il va plier ses pagailles, il repart. Mon deuxième problème, moi, je trouve que les artisans ne sont pas organisés ici. Parce que s'ils sont organisés, ils devraient être solides d'une façon que, quel qu'en soit un problème qui va se soulever, par exemple, comme un apprenti qui va juste savoir comment couper et coller, et il va se détacher pour aller dire que lui, il va travailler pour lui-même en tant que patron ou bien ouvrier, créer son propre entreprise, et juste parce qu'il sait couper-coller seulement. Si les artisans sont unis et solides, ils peuvent interdire tout ça là. Tu vas avoir des apprentis qui vont un mois sur le terrain et ils vont commencer par prendre des marchés. Et vraiment, la main d'œuvre ici, les gens, nos populations ici, ils ne payent pas bien la main d'œuvre.
Merci beaucoup, Abdoulaye Kadem et Brigitte. Je reviens à vous, Mustapha Amadou, directeur du Centre de formation des artisans de Gaïa. Quels sont les défis à relever du côté de la formation des artisans à Gaïa?
C'est les défis qui sont de taille. Quand on prend ici au niveau local, nous voulons que, Inch'Allah, en tout cas, toutes les communes, qu'il y ait en tout cas une population importante des artisans. Et surtout, je voulais dire la génération montante. Nous avons un centre communautaire qui aujourd'hui se prend en charge. Les partenaires sont en train de partir parce que lorsqu'on dit partenaires là, ils ne seront jamais éternels. S'ils sont là aujourd'hui, demain, ils ne seront plus. Et ça fait partie également de nos défis de créer ou innover, en tout cas, les mécanismes qui permettront également de répondre perfectement à la survie du centre. Raison pourquoi j'ai dit, nous avons initié des actions qui permettront de régénérer des ressources au niveau du centre et en tout cas aussi les réflexions continues de la mesure également de maintenir et garantir aussi la survie du centre. Je pense qu'à ce niveau, il faut le dire, les défis sont énormes, mais il faut comprendre qu'avec nos moyens de bord, et la détermination, la persévérance, plus l'engagement, en tout cas, je pense que je suis très, très prometteur par rapport à ça.
Quelles sont les filières que vous enseignez aux jeunes dans votre centre?
Oui, comme le SG départemental vient de l'afficher, nous avons plusieurs filières, mais les filières qui sont opérationnelles aujourd'hui sont au nombre de 7 en formation duale. Et nous avons plus de 4 qui sont également en formation FIP. Donc, je reviens pour donner plus de précision par rapport à la formation duale, les filières qui sont opérationnelles. Nous avons la menuiserie bois, la menuiserie métallique. Nous avons également la mécanique auto. Nous avons la mécanique de roue. Nous avons la couture. Nous avons l'électricité bâtiment. Nous avons aussi électronique grand public. Ça, c'est vraiment les filières qui sont dans le volet la formation duale. Et quand je prends aussi au niveau de formation FIP, nous avons la cosmétique, nous avons ce que lui disait, c'est son domaine. D'ailleurs, même il est en train de me regarder, ne t'inquiète pas, je vais mentionner ça. C'est également la teinture batik. En tout cas, en ce qui concerne la formation FIP, nous avons plusieurs, en tout cas, qui sont d'abord, il faut le dire, plusieurs activités relativement à la formation FIP, mais en tout cas dans le centre nous avons 4. Pour couronner tout ça là, nous avons un programme de l'alphabétisation fonctionnelle qui accompagne également aussi toutes les filières là. Raison pourquoi nous sommes dit au niveau du centre là, alphabétisés ou non alphabétisés, en tout cas nous nous sommes préparés pour y faire face à toutes ces situations là.
Ok, merci. D'accord, merci beaucoup Mustapha Amadou. Je reviens à vous Idrissa Seydou. Quels sont aujourd'hui les défis à relever dans le secteur de l'artisanat à Gaïa?
Actuellement, parce que je parle, peut-être s'il m'écoute, sous le contrôle de la Fédération nationale, où il y a un programme vaste qui est vraiment mis en place actuellement pour vraiment relever pas mal de défis qui sont là devant nous. Et, par exemple, pour empêcher la consommation extérieure, le fait que la population ne consomme pas le local, c'est-à-dire de l'artisanat. Donc ça, c'est un défi que nous voudrons relever parce qu'il nous faut avoir la qualité pour retenir ces clients-là. Donc, du coup, on est là en train de voir dans quelles conditions nous allons vraiment apporter non seulement des formations pour nos artisans, et vraiment les recycler dans tous les filières pour qu'au moins ils puissent, chacun, en ce qui le concerne, pouvoir faire mieux ce qu'il faisait.
Quel est le statut juridique des personnes qui exercent le métier de l'artisanat ici à Gaya?
En tout cas, actuellement, ce que nous sommes en train de voir dans le statut d'un artisan ici, nous avons d'abord, avec l'intervention de la CEMANI, la CEMANI, c'est le chambre des métiers d'artisan. La CEMANI, c'est une chambre qui est détachée de la chambre de commerce, comme la chambre d'agriculture et consorts. Voilà, cette CEMANI là est là maintenant pour les artisans. Donc là, la CEMANI est en train de mettre en place maintenant une carte professionnelle. Une carte professionnelle qui permet à un artisan d'être identifié. Ça, c'est un. Et aussi, avoir pour chaque artisan une qualification. Pour que l'artisan soit un artisan plein, il faut qu'il ait vraiment un papier, une attestation qui prouve que voilà le temps qu'il a fait en train d'être formé et voilà la qualification avec laquelle il est sorti.
Directeur, y a-t-il un suivi des apprenants issus de votre centre de formation?
Voilà. C'est ça même la nuance entre notre centre, le centre de formation des artisans de Gaya et les autres centres. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de former et laisser. Et il faut former, suivre également ces formés-là. Raison pourquoi, il n'y a même pas longtemps, au niveau de la mairie, il y avait eu des kits. Et en tout cas à l'endroit des CI bénéficiaires qui ont également fini leur formation au niveau du centre. Tout entre-temps, mais avant même ça, nous avons fait une enquête pour voir dans la ville de Gaya et ailleurs, parce que le centre là, c'est vraiment le centre avait son envergure départementale au niveau de presque toutes les communes. Nous sommes en tout cas toujours sur le processus là, en train de voir la situation actuelle de nos produits, je m'excuse du terme, de nos formés à l'issue de cette formation. Et toujours, il y a des dossiers qui sont montés à travers ces enquêtes-là, adressés au niveau de partenaires, parce que nous avons vu nos formés à l'issue de la formation et avec les membres de bord, ils sont arrivés à implanter leur atelier dans la ville en train de travailler avec les moyens qui sont très très réduits. D'autres aussi sont clandestinement positionnés dans leur maison en train de travailler. Donc nous avons fait le recensement de tout ça là et Dieu merci, les partenaires sont vraiment en train de nous venir en aide par rapport à ça. Donc c'est un processus qui suit présentement son cours normal.
Abdel Kadem et Bridi, quels sont les critères qu'un artisan doit respecter ici à Gaya avant d'installer son atelier?
Déjà, ces critères-là ne sont pas respectés. Mais les critères qu'un artisan doit avoir pour avoir son atelier d'abord, parce que l'installation ne peut pas empêcher l'installation, mais pour avoir un atelier, étant maître d'atelier, il faut d'abord avoir ton diplôme qui a été livré par ton patron avec les autorités et autres. Et il faut avoir les compétences de travailler. Parce que les diplômes, d'autres peuvent avoir le diplôme, ils n'ont pas les compétences. Et maintenant, quand tu ouvres ton atelier, c'est pas même si tu sais faire le travail, si tu ne respectes pas ton travail, tu ne peux pas arriver. Donc quand tu ouvres ton atelier aussi, il faut respecter le travail d'abord. En respectant le travail, il faut respecter le client, il faut respecter ton environnement et il faut bien faire ton travail. Quoi qu'il en soit, il faut te dire que ce que tu fais là, tu le fais pour toi-même, pas pour le client. Hein. Parce que le client, lui, il va prendre parti. C'est toi qui vas rester. Demain, il va pas. Si tu fais un mauvais travail, il va pas venir. Mais si tu fais un bon travail, obligé, il va venir.
Est-ce que les gens respectent tous ces critères que vous avez cités là?
Les gens ne les respectent pas parce que nous-mêmes, étant fédération, on n'a pas globalement le contrôle de tous les artisans. Parce qu'il y a des artisans que nous, on les voit seulement, on ne sait même pas, ils sont venus où, ils sont venus d'où. On les voit seulement travailler sur le terrain.
Je vous invite à présent à écouter quelques citoyens de la ville de Gaya qui nous livrent leur avis sur l'artisanat à Gaya.
Ici, à Gaya, vraiment, l'artisanat, c'est pas assez tense. Gaya est un peu en retard, hein, sincèrement, sur l'artisanat. Je vois des handicapés qui fabriquent leurs chaises, leurs savons, n'est-ce pas, un peu partout. Et ça aussi, ils n'arrivent pas du moins ça, à faire couler ça à 100%. Les gens au lieu de faire courir à eux, n'est-ce pas? C'est pour les supporter, n'est-ce pas? Mais ils ne le font pas. Mais vraiment, l'artisanat ici d'Anga, à tout moment, c'est le même circuit. Sincèrement, il n'y a pas de changement.
Honnêtement, le métier de l'artisanat marche bien à Gaya comme nous le souhaitons. On enregistre également des progrès parce que de plus en plus de personnes s'intéressent à l'activité. Mais nous manquons des ressources nécessaires pour bien faire le travail et l'améliorer et produire également en quantité et en qualité. Malheureusement, nous achetons le matériel cher et la population a du mal à l'acheter.
D'abord, la population ne s'intéresse pas aux trucs qu'on produit même par nous-mêmes. Ce qui est produit chez nous est plus meilleur et la qualité plus que ce qui est importé. En tout cas, cela va non pas seulement encourager la population interne de faire plus, mais aussi ça va encore favoriser l'économie du pays. Le plus grand problème, c'est que nous ne nous intéressons pas. Nous ne nous intéressons pas aux trucs produits chez nous. Le progrès, les minables, si on peut le dire, et que je disais, il est très minable. Parce que vous prenez au hasard des passages au moins 10 personnes dans 100, qu'elles soient au marché ou bien à la mosquée, et étudiez leur comportement vestimentaire. Vous n'allez pas trouver quelque chose qu'ils portent qui est produit ici à Gaya ou bien au Niger en général. Alors que réellement, au Niger ou bien à Gaya en particulier, nous produisons des chaussures, nous produisons des ceintures, nous produisons beaucoup de choses qui peuvent couvrir notre comportement vestimentaire.
Vous venez donc d'écouter les avis de quelques citoyens de la ville sur l'artisanat à Gaya. Monsieur Idrissa Seydou, que vous inspirent les propos de ces personnes que vous venez d'écouter?
Merci vraiment, et ils ont bien intervenu. Et puis si vous prenez le deuxième intervenant qui a parlé de ce que j'avais parlé aussi, de vraiment du consommer local que nous n'avons pas actuellement. Vraiment, le Nigérien fuit même les articles du Nigérien. C'est ça le grand problème. En tout cas, si aujourd'hui, le simple fait de prendre les produits ici au Niger, ça permettra à l'artisanat de développer. Vous voyez, quelle qu'en soit la technicité avec laquelle tu le fais au Niger, il appartient ou bien ça plaît à un Nigérien d'aller à l'extérieur prendre. Même si c'est de mauvaise qualité, lui, il va dire que c'est à Dubaï qu'il a payé. Oui. C'est encore mieux que de dire que c'est à Gaya. Alors que celui de Gaya est non seulement plus joli et plus performant, tout ça, là, vous voyez. Donc vraiment, c'est le problème qui est là, que si vraiment on arrive à y remédier à ça, vraiment, ça peut faire avancer l'artisanat au Niger.
Ok.
Et à Gaya en particulier.
Abdelkader, qu'est-ce que vous avez à dire?
Moi, c'est que je vais dire seulement à la population, c'est de reconnaître que nous qui font les objets, nous qui font les métiers là, on est sûr de ce qu'on fait. C'est pourquoi on les fait. Et si on les fait, c'est pour eux on les fait. C'est pour qu'ils puissent consommer. S'ils ne consomment pas, comment est-ce qu'on va avoir le courage de fabriquer d'autres, hein? On ne peut pas avancer comme ça. Si vraiment ils veulent que nous avançons comme les autres pays, comme les Burkina, les Mali, ils ont fait pour avancer, ils n'ont qu'à consommer ce qu'ils voient devant eux. Mais à quoi ça sert, par exemple, pour acheter un simple salon complet? Il faut que mon gars se déplace pour aller au Nigeria, acheter jusqu'à Dubaï. Or que Idrissa est là, il est là, il peut faire un salon très, très chic, plus que celle de Dubaï, et plus solide. Hein? Moi, j'avais confectionner des salons en punais, des trucs, je fais des trucs de décoration, des décorations là. Je les ai fait beaucoup. Quand je suis venu, je trouvais un collègue qui travaillait sur le terrain. Mais j'ai essayé pour qu'on puisse faire au moins une exposition. On avait même fait une rencontre pour ça, pour qu'on va voir comment faire, pour qu'on puisse valoriser nos objets. Mais je t'ai dit, ils ont fait, les menuisiers ont fait leur technique. Nous, on avait fait des tableaux et on avait fait des petits objets pour la décoration. Les menuisiers ont fait. Donc, je te dis, les trucs là, tous les tableaux, actuellement même j'ai d'autres dans mon atelier. 5 000 francs, on n'a pas eu à gagner. Parce que, et ils vont venir regarder. Wallahi, c'est joli. Eh? C'est très joli, wallahi. Et ils vont laisser. Mais ils vont aller acheter seul du marché que quand ils vont, avant qu'ils vont monter sur la moto même, si ça tombe, ça se casse.
Donc. Alors, et vous, Mustapha, que vous inspire ce que vous avez entendu des citoyens que nous avons interviewés?
Aujourd'hui, Dieu merci, tout le monde a compris où se trouvait la source également du problème. Le refus de consommation locale. Aujourd'hui, si nous avons en tout cas une population importante qui est en train de s'investir à travers l'artisanat, et je pense que cette population méritait d'être accompagnée, en commençant d'abord par l'État. Parce que nous avons vu juste ici nos pays voisins où il y a des tenues vestimentaires qui sont baptisées Sankara arrive, etc., etc. Ça, c'est une façon vraiment d'encourager les originaires du pays à consommer nos produits. Et je pense que ça va encore garantir, en tout cas, ce métier, parce qu'il y a des jargons qui disent l'artisanat nourrit son âme. Mais je dis, ici au Niger, il est difficile pour moi de faire vraiment une équation directe, voir est-ce que ce qu'on est en train de produire nous permettra également de pas vivre, de survivre. Deuxième chose, c'est qu'il disait, toujours c'est de revenir au niveau de l'État. L'État doit être vraiment exemplaire par rapport à ça. Si chaque fois, quand on prend le budget annuel accordé par l'État, où ils font généralement leurs commandes à l'extérieur, pendant que nous avons des artisans qualifiés, aujourd'hui, quand on prend aussi la tenue vestimentaire là, et je pense que si nous essayons de consommer nos produits locaux, ça va permettre également de pérenniser notre culture à travers la tenue, à travers, parce que la tenue aussi exprime l'identité, en tout cas de la Nigérinité. Quand on prend en tout cas les bâtiments, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des institutions ou au niveau des personnes de bonne volonté, il faut avoir un jour le courage d'aller visiter ces chantiers-là. Ils sont tous venus de l'étranger. Alors que suite à, je ne sais pas, c'était une enquête qui a été menée, il y a des milliards chaque année qui prennent des destinations ailleurs que nous sommes censés gagner. Et pire dans tout ça là, l'État ne nous donne pas ces contrats et à la fin, l'État de l'année nous impose payer les taxes avec l'histoire vraiment de la loi de finances, nous, ça nous met au chaos. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'avec cette loi-là, nos activités sont en train de sombrer. Et je m'excuse du terme, c'est la radio, il faut le dire. On ne vit plus maintenant. Nous existons, mais on ne vit plus. Donc, raison pourquoi aujourd'hui, l'État doit commencer l'exemple. Montrer aux Nigériens, hein, l'État doit encore amener les fonctionnaires consommants nigériens. Deuxième chose, l'État doit également faire en sorte que les opérateurs économiques consomment nigériens. Et je pense que si la ligne est respectée, et Inch'Allah, vraiment, l'artisan là, ça va bon train, Inch'Allah.
Abdelkader, nous savons que les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 hein, ont touché plusieurs secteurs d'activité, dont l'artisanat. Quels sont les impacts de la Covid-19 sur le métier de l'artisanat ici à Gaya?
C'est juste la fermeture des frontières qui a eu entre-temps. Les frontières sont fermées parce que généralement, tous nos produits, même que nous utilisons pour faire d'autres travaux, on les achète ailleurs. Ouais. Nous, on les achète, on les achète au Nigeria ou bien au Bénin. Le Covid a fait qu'ils ont fermé les frontières, donc il n'y a rien qui bouge. Même si tu prends le marché pour aller trouver le matériel, c'est tout un problème. Souvent, tu vois, donc c'est ça que je peux dire. Que, et deuxième aspect aussi, c'est la Covid a fait que d'autres ne travaillent pas. Ça a touché un peu partout dans l'artisanat. Parce qu'il y a des ONG ou bien des projets qui vont intervenir. C'est dans leur intervention qu'ils vont vouloir faire des banderoles, ou bien ils vont vouloir faire des bancs, ou bien ils vont vouloir peinturer quelque part. Hein? Tu vois? Donc le Covid a fait que ces gens-là ne viennent pas. Ils sont classés sur une liste jusqu'à un nouvel ordre, quoi. Donc, ce qui fait que l'activité a été un peu ralentie entre-temps, mais maintenant, ça commence à avoir un peu d'image, comme je peux le dire. Sinon, vraiment, le Covid, bon, les gens peuvent dire qu'ils ont oublié le Covid parce que la terre est ouverte.
Alors, Idrissa Seydou, comment est-ce que vous avez géré cette période de crise sanitaire avec la fermeture des frontières?
Vraiment, avec la fermeture des frontières, ça a été difficile. Ça a été difficile. Et il dit que c'est réouvert, mais malgré la réouverture, avant que ces mêmes activités les relancent, vraiment, ça va prendre du temps. Vous voyez, avoir une clientèle, et une clientèle du moins qui est là, et tu fais seulement, par exemple, en tant qu'artisan, tu as le client qui vient, bon, prenons par exemple un hôtelier qui est là, chaque fois si les étrangers viennent, ils savent que voilà là où ils vont aller s'installer pour au moins manger avant de passer. Maintenant, ils sont venus une fois, deux fois, ils ne sont plus venus. Maintenant, ils vont changer de gamme. Vous comprenez? Maintenant, pour retrouver ces gens-là, ça va prendre du temps. Vraiment, c'est ce problème que nous avons. Ça a posé tellement de problèmes. Et on est en train de se racheter cette fois-ci. Petit à petit, c'est en train de venir. Et Inch'Allah, on implore dès que tout sera oublié et que nous trouvions vraiment le bon train de nos activités, Inch'Allah.
Moustapha Amadou, en quoi le Covid a eu aussi d'impact sur la formation des jeunes apprenants dans votre centre de formation?
Il faut comprendre que la Covid a créé une crise mondiale. Il y avait eu des arrêtés et des décisions ministérielles en disant qui parlent surtout sur la fermeture des établissements. Et je pense que en cette période, plusieurs centres professionnels ont été dans l'obligation de suspendre, en tout cas, les formations. Et le sevrage brutal a beaucoup joué négativement, en tout cas sur cette formation-là. Parce que à partir de l'arrêté qui sont mis en application à aujourd'hui, je pense que nous avons connu tellement de difficultés parce qu'il y a des jeunes apprentis qui étaient dans le processus d'apprentissage, mais avec l'apparition de la Covid-là, maintenant, c'est fini. D'autres ont définitivement abandonné. D'autres aussi, maintenant, au lieu d'aller en deuxième année, ils étaient obligés encore de reprendre aussi la première année, étant des brillants, mais comme c'est un programme qui, à la fin, sera sanctionné d'une évaluation, nous serons dans l'obligation de revenir un peu en arrière. Et c'est tout à fait aussi une difficulté immense à expliquer aux parents d'élèves et l'élève même en tant que tel, le fait de comprendre aussi cette situation-là, c'est encore un problème.
Ok, d'accord. Abdel Kader, à l'heure actuelle, qui sont vos principaux clients?
C'est toujours la population, mais si on dit la population ne consomme pas nos produits, parce qu'il y a consommation, il y a aussi prestation. On fait des prestations. Les prestations qu'on faisait, par exemple, les plaques, les cachets, les autres. Bon. Maintenant, le problème, si on fabrique nos objets ici, si nous faisons nos expositions, c'est à ça qu'ils ne touchent pas. Mais ils nous amènent des prestations. Les prestations même, c'est parce qu'ils savent qu'on le fait bien. C'est pour ça qu'ils amènent. Donc, si aujourd'hui, et je dis, ils ne consomment pas, comment dirais-je, ils ne consomment pas nos produits, je ne veux pas dire aussi qu'ils ne nous donnent pas des travaux à faire. Mais aujourd'hui, si moi je fais quelque chose, je fabrique quelque chose, comme un objet exposé comme ça, pour qu'on puisse me le prendre, ça va prendre du temps. Ça, peut-être même c'est un étranger qui va venir prendre ça. Moi, tous mes produits même que je fais, c'est les étrangers qui prennent ça. Ouais, donc, ce qui fait que la population, on gagne auprès de la population parce qu'on vit avec eux. Mais la grande majorité de nos clients, moi, franchement, mes clients, la grande majorité de mes clients, c'est les étrangers.
Alors, Idrissa, hein, comment travaille votre bureau pour changer la situation des artisans?
Le bureau de la Fédération et départementale des artisans de Gaïa est à pied d'œuvre pour vraiment apporter une organisation qui va faire en sorte que vraiment l'artisanat marche dans le département de Gaïa. Et dans ces organisations-là, nous avons d'abord, comme l'a dit M. le Président, l'établissement des diplômes pour permettre aux chefs d'atelier de s'installer dans les normes. C'est-à-dire ces diplômes, nous avons fait une organisation qui permet maintenant à l'apprenant D'abord, une fois que le chef d'atelier comprend que son apprenant, son apprenti a compris, il a fini la formation. Sinon, dans les diplômes, nous mentionnions 4 ans. Donc, à partir de 4 ans, quel qu'en soit vraiment l'apprenti, peut-être au bout de 4 ans, il peut vraiment comprendre ce qu'il est parti apprendre. Maintenant, à la fin de ces 4 ans-là, c'est le patron même qui vient vers la fédération dire que voilà, j'ai un apprenti qui a fini sa formation. Et là, la fédération a pris les initiatives d'aller tester l'enfant avant de lui délivrer un diplôme. On le teste au centre, là où Moustapha est. On teste l'enfant. Maintenant, s'il admet, on lui délivre d'abord une attestation du centre, comme le centre sera bientôt reconnu par l'État. Et avec la valorisation aussi des acquis professionnels, maintenant les attestations qui proviennent du centre seront valorisées. Et ça serait vraiment, c'est pourquoi nous nous camponnons vraiment sur les attestations provenant du centre. Après l'attestation, maintenant c'est la fédération qui délivre un diplôme de fin d'apprentissage pour cet apprenti. Après avoir ce diplôme, dans nos textes, l'apprenti doit rester avec son patron 3 mois. Ça, et c'est pour le servir. Ça,
juste après
l'obtention de son diplôme. Il doit rester 3 mois avec son patron. À partir de ces 3 mois, comme s'il a servi le patron, maintenant, il a le pouvoir d'aller s'installer de lui-même. Maintenant, avec ses papiers, il est vraiment dans les normes. Il n'a pas brûlé, quelle que soit l'étape. Maintenant, il s'installe vraiment paisiblement. Et après ça, nous sommes à pied d'œuvre maintenant de pouvoir. Il y a des chefs d'atelier qui n'ont pas eux aussi cette qualification, ils n'ont pas de diplôme. Nous sommes en train de voir dans quelles conditions nous allons les délivrer ces diplômes. Parce que ce sont sur le terrain, la personne est craque. Mais il n'a pas avec cette ère-là, et avec l'apparition de différents projets, vous voyez, le projet vient, tu lui dis que toi tu es un menuisier. Où est le papier que prouve que tu es un menuisier? Tout le monde sait que tu es un menuisier qualifié, mais nous avons négligé les papiers d'avant. Maintenant, nous sommes en train de faire avec la fédération, voir dans quelles conditions tous ces gens-là, ces MA-là, qui étaient là, qui n'ont pas de papiers, de leur fournir les papiers-là qui va leur permettre vraiment d'avoir prochainement, avec les acquis de la qualification des acquis professionnels, ces papiers seront classés et ils seront aussi classés dans une catégorie qui va vraiment être conforme à ce qu'ils peuvent faire. Donc c'est à peu près là, en grosso modo, ce que la fédération est en train de faire pour pouvoir au moins mettre les artisans, non en non formel, mais dans le formel. Voilà, prochainement, l'artisanat sera formel, pas comme avant, Inch'Allah.
D'accord. Et Moustapha Amadou, quel pourrait être alors l'apport de votre centre de formation dans l'émergence de l'artisanat ici à Gaya?
Nous avons compris une chose. Aujourd'hui, les élèves, en tout cas, les apprentis qui sont recrutés au niveau de notre centre, permettez-moi de vous dire qu'ils sont en train de construire leur garantie directe, leur métier direct. Parce que, en tout cas, à travers les expériences vécues au niveau du centre-là, toutes les promotions aujourd'hui, qui ont fini leur formation au niveau du centre, sont en train de contribuer activement au tissu local sur le plan social, économique et professionnel au niveau du Dandi, et en train de maintenir aussi, si vous voulez, et contribuer à la sécurité. Parce que nous avons recruté des jeunes qui, au début, ne faisaient rien, permettaient qu'ils faisaient un peu la pagaille. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler de leur propre compte, subvenir à leurs propres besoins et contribuer aussi aux besoins familiaux. Et je pense que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Il faut le dire, nous avons initié également des actions où nous avons touché les autorités locales pour voir dans quelle mesure on peut également initier des actions au niveau de la prison. Nous avons déclenché le processus et Inch'Allah aussi ça va au bon train. Et d'autres choses, il faut le dire, à travers toujours de la crise également de la COVID-19, nous avons confectionné également des bavettes et mettre à disposition gratuitement au niveau des institutions, au niveau également aussi des personnes les moins nantis, etc. Donc vraiment, nous avons apporté beaucoup de réponses sociales à ceux qui en ont besoin. Donc je pense qu'il y a tellement de choses à citer par rapport au aux valeurs ajoutées par rapport à la contribution que le centre est en train d'apporter.
D'accord, merci beaucoup Mustapha. Abdel Kader, hein, quelles sont vos propositions pour booster le secteur de l'artisanat à Gaïa?
Premièrement, d'abord, ça va vers l'État. L'État, il n'a qu'à voir des mesures qu'il va prendre pour que nous, les petites entreprises, on puisse grandir. Et c'est quoi? C'est faire en sorte que d'abord l'impôt ne nous traîne pas, parce que si l'impôt vient te fermer, tu n'as pas de travail à faire. Et un petit entrepreneur qui a commencé peut-être son première année d'expérience, l'impôt vient coller un truc de photocollage et fermer un pot sur sa porte. Ça, vraiment, ça nuit sur les petites entreprises et les ateliers des artisans ici à Gaïa. Deuxièmement, nous souhaitons vraiment que... parce qu'on va parler de l'État, mais on peut parler aussi de la population. Parce que c'est avec la population là qu'on vit. Nous souhaitons vraiment que cette population-là comprennent que les artisans de Gaïa aussi sont des artisans qualifiés. Ce n'est pas parce que tu connais cette personne que tu ne vas pas lui donner du travail. Ou bien ce n'est pas parce que tu connais le moment que lui il a appris son métier que tu vas dire que non, il n'est pas qualifié. L'expérience là, c'est qu'ils oublient. Les gens qu'ils prennent, ce sont des hommes comme nous. Ce sont des gens comme nous. Donc, chaque personne est fétiche dans son domaine. Donc vraiment, moi, ce que je veux dire à tous nos frères et sœurs, nos pères, vraiment de faire en sorte que de consommer nos produits et de nous donner aussi les travaux à faire s'il y a des travaux à faire.
Ok, d'accord. Idrissa Seydou, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos des solutions?
La première des choses, c'est de faire un appel à l'État, comme l'a dit Kader, de bien vouloir un peu alléger les taxes. On sait que les taxes, c'est un droit civique, mais quand même de les alléger pour qu'au moins, par rapport à l'activité de la personne, de voir comment il faut vraiment un peu modérer ces taxes-là. Et secondo, nous avons un appel, c'est à l'endroit des parents d'abord, des apprenants. Ces parents-là doivent non seulement ne pas regarder leurs enfants en train de traîner, de prendre quoi que ce soit de la drogue en cours de route, mais de tout faire pour les envoyer dans des ateliers. Et que ces enfants-là, une fois dans les ateliers, Inch'Allah, avec vraiment l'aide de Dieu, la fédération est là pour vraiment aider cet enfant-là à émerger. Et aussi, pour finir, nous lançons notre vraiment appel aux bonnes volontés, aux partenaires, pour qu'au moins à travers les formations, nous aurons vraiment une expérience, nous aurons encore plus d'expérience sur nos activités qui nous permettra vraiment de relancer les activités et que l'artisanat émerge.
D'accord. Voilà. Mustapha, quelles sont vous aussi vos propositions pour l'émergence de l'artisanat à Gaïa?
Vaut mieux tard que jamais. Même si tu rates le cursus scolaire, le centre est là pour donner une deuxième vie, pour donner également une deuxième chance qui a également beaucoup plus de garanties que les études ordinaires, que vous le savez, parce que tu peux étudier jusqu'à l'université et ne pas savoir ce que tu vas faire après. Raison pourquoi je lance un appel aux parents de faire ramener les enfants là au niveau du centre, parce que le centre est là pas seulement pour la commune, c'est pour tout le département. Donc ça va nous permettre de contribuer à l'économie locale, ça va nous permettre de contribuer à la sécurisation, ça va nous permettre également de contribuer à la promotion de la formation professionnelle. Raison pourquoi j'interpelle, en tout cas, laissez tous les autorités municipales de jouer pleinement leur rôle pour sauver la vie de ces jeunes-là qui sont en train vraiment d'emprunter une voie sans retour, une voie qui n'a pas de garantie. Parce que le centre est là, c'est un centre communautaire qui a fait d'ailleurs même ses preuves. Donc, raison pourquoi j'ai dit Ces partenaires-là, et le gouvernement, les autorités locales, doivent vraiment apporter leur part de contribution.
Merci à vous, chers invités. Mesdames et messieurs, nous sommes à présent au terme de ce forum qui portait sur les défis liés au secteur de l'artisanat à Gaya. Et nous étions en compagnie de Abdelkader Meybirdi. Il est le président communal sortant de l'Association des artisans de Gaya. Nous étions également en compagnie de Idrissa Seydou, le secrétaire général départemental des artisans de Gaya, et également Mustapha Amadou, le directeur du Centre de formation des artisans de Gaya. Et devant ce microphone, je suis Fadel Alou de la radio Farha Gaya. Merci et au revoir.